France Inter, Karine Bécard, Ali Badou, le 7-9.
Mercredi 28 octobre, bonjour à tous, bon réveil et bienvenue sur France Inter. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le mot reconfinement n'est plus tabou. C'est la piste envisagée par l'exécutif pour ralentir l'épidémie de coronavirus. Les annonces attendues ce soir à 20h par le président de la République. Les autres titres, Marion.
Le coronavirus et ses conséquences. Difficile d'appliquer les gestes barrières en prison où les foyers épidémiques se multiplient. Les entreprises, elles, craignent le pire. Exemple avec le fabricant de verre Duralex. La colère toujours en Pologne. Les manifestantes ne désarment pas 5 jours après la quasi-interdiction de l'avortement dans le pays. Et puis un match de foot sur fond de crise sanitaire et diplomatique. Le PSG affronte à Istanbul le Başakşehir en deuxième journée de Ligue des Champions.
Invité de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Karine Bécard.
L'épidémie de coronavirus est aujourd'hui considérée comme hors de contrôle. Où en est notre système hospitalier? Comment fait-il pour résister? Espère-t-il rapidement maintenant une mesure forte de reconfinement? Frédéric Valtoux, qui préside la Fédération hospitalière de France, nous dira tout à l'heure à 7h50.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le haut commissaire au plan, maire de Pau et président du Modem, François Bayrou. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et bien sûr sur l'application France Inter.
France Inter. À la recherche des restrictions éco-compatibles. Autrement dit, comment mettre un coup d'arrêt au virus sans arrêter en même temps l'économie? Décision attendue sur les nouvelles restrictions ce matin en Conseil de Défense. Annonce ce soir à 20h par le président de la République avec bien en tête les positions des chefs de parti, syndicats et responsables politiques. Entendue hier soir par le Premier ministre qui a déjà esquissé des pistes, Simon Cardona.
Des idées floues, peu de concret, les responsables politiques attendaient mieux de cette réunion.
On va dire que le Premier ministre était extraordinairement clair sur les intentions du gouvernement.
Mais une idée générale ressort quand même, assure François Barouin, président de l'Association des maires de France.
Le sentiment qu'on a, c'est qu'on va plutôt vers un confinement, que ça va durer quelques semaines, que le gouvernement essaie de trouver les moyens de préserver peut-être les écoles, les services publics.
Problème, Jean Castex n'a jamais clairement privilégié cette piste, regrette un Nicolas Dupont-Aignan agacé.
On ne peut pas nous demander de prendre parti sur des solutions qu'on ne nous présente pas. Voilà, on nous fait venir pour vous faire croire qu'on discute, on nous écoute.
Non, ce type de réunion sert à être solidaire, à affronter ensemble de nouvelles restrictions sanitaires, rétorque Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
C'est le rôle de tous ceux qui exercent une responsabilité aujourd'hui, de ne pas essayer de mettre le doigt sur ce qui va nous diviser, mais de mettre le doigt sur ce combat qui doit être le nôtre aujourd'hui. Pour ça, il va falloir protéger ceux qui sont le plus en difficulté dans le monde économique ou dans la société, et je pense notamment aux plus fragiles et aux jeunes.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, lui, monte dans sa voiture sans dire un mot à la presse. Le patron du MEDEF abasourdi sous le choc des nouvelles restrictions sanitaires envisagées par le gouvernement.
Vous avez bien entendu, le mot reconfinement n'est plus tabou. Selon nos informations, il serait de 4 semaines au moins avec écoles et collèges ouverts, services publics maintenus. Simon Lebas, c'est un changement complet de position pour Emmanuel Macron.
Quand le premier conseil de défense consacré au diagnostic se réunit hier matin à l'Élysée, plusieurs scénarios moins lourds sont encore évoqués. Renforcement du couvre-feu, confinements locaux dans les métropoles les plus touchées. Sauf que les chiffres que le président et ses ministres ont sous les yeux sont catastrophiques, raconte un conseiller. Les indicateurs explosent partout en France et il n'a pas échappé à Emmanuel Macron que toute l'Europe ou presque annonçait de nouvelles restrictions. Alors le chef de l'État s'y résout. La stratégie graduée et territorialisée ne fonctionne pas. Il doit taper fort au niveau national et vite, ces nouvelles mesures devraient s'appliquer ce week-end au plus tard, selon un proche du ministre de la Santé. Le couvre-feu ne suffit pas, un durcissement est indispensable, confirme dans la soirée le Premier ministre devant les chefs de partis politiques. L'Élysée annonce dans la foulée qu'Emmanuel Macron s'exprimera à 20h. Jean Castex fera le service après-vente dès demain devant les députés et les sénateurs. Le président en direct devant des dizaines de millions de Français, le chef du gouvernement à la tribune du Parlement, tout le monde l'a compris, ce n'est pas pour annoncer des demi-mesures.
Et pour décrypter les annonces du président de la République, ce soir, téléphone sonne spécial sur France Inter dès 19h à l'occasion du président, en direct à 20h. Analyse et réaction avec la rédaction de France Inter jusqu'à 21h. Tapez fort et sans demi-mesures. Chiffres à l'appui, la moitié des lits de réanimation français sont occupés aujourd'hui par des patients qui souffrent du coronavirus. Reconfiner était inévitable, selon le professeur Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, en région parisienne.
Il fallait faire quelque chose parce que le couvre-feu, on n'a pas les effets attendus et on a au contraire une accélération de l'épidémie. Je le vois au niveau de mon hôpital où j'ai de plus en plus de mal à placer mes patients malades, même les patients graves, dû à la saturation des services et des réanimations. Donc je suis effectivement pour un renforcement des mesures qui visent à diminuer le nombre de malades qui arrivent à l'hôpital victimes du Covid, parce que notre problème est un problème capacitaire. On n'a pas assez de place, on n'a pas assez de services, on n'a pas assez de personnel pour soigner tous ces malades. Mais je suis quand même inquiet pour l'avenir à plus long terme sur les traces que vont finir par peser sur notre système de santé par ces mesures de confinement. Je parle bien sûr des autres pathologies, des autres patients.
Frédéric Adnet au micro, France Inter de Daniel Messager. L'épidémie préoccupante aussi à l'étranger. L'Allemagne pourrait-elle aussi appliquer un reconfinement? Décision attendue aujourd'hui. Expérience vécue déjà en Israël. On tire le bilan d'un deuxième confinement qui s'achève. Reportage dans le journal de 7h30 sur Inter. Chez nous, l'évolution de l'épidémie inquiète. Entre autres, entre les murs des prisons, le ministre de la Justice a même écrit au parquet et au service pénitentiaire message « Il faut maintenir une densité carcérale compatible avec les mesures sanitaires », consigne bien difficile à appliquer quand le taux d'occupation dépasse les 100%, Mathilde Vinceneux.
1043 détenus confinés la semaine dernière, 117 cas positifs et une surpopulation qui ne permet pas le respect des gestes barrières.
Il y a plus de 600 personnes qui dorment par terre sur un matelas dans les prisons françaises.
François Besse de l'Observatoire international des prisons.
Maintenir enfermées 3 personnes ou 4 personnes dans 9 mètres carrés, on crée des situations de risque sanitaire encore plus grandes.
Alors dans sa note, le ministre invite les magistrats à éviter l'incarcération pour les peines courtes, pour les mineurs. Des aménagements sont déjà prévus par les mesures dites « bloc peine », pas suffisant pour Flavie Rowe, secrétaire générale du syndicat national des directeurs pénitentiaires.
On voit certes arriver quelques cas d'aménagement induits par le bloc peine, mais ça reste vraiment des quantités infimes et ça ne parvient absolument pas à réguler l'augmentation à nouveau de la population pénale et encore moins à la réguler vite, ce dont on aurait besoin aujourd'hui compte tenu à nouveau de l'aggravation sanitaire.
Pour agir vite, il y a toujours la possibilité d'accélérer les sorties, comme pendant le confinement, rappelle Cosam, l'un des membres du compte Twitter, le syndicat des détenus.
Il y a eu 10 000 détenus en moins. Alors, il y a eu des détenus qui ont eu une réduction de peine exceptionnelle, qui devaient sortir en juillet, mais finalement sont sortis en mars.
Sinon, en cas de reconfinement, la population carcérale pourrait aussi naturellement baisser avec la diminution de l'activité juridictionnelle.
Version longue à lire sur franceinter.fr et à 13h30, Dominique Simoneau, contrôleuse générale des prisons, sera l'invité de France Inter. Un taux d'occupation qui pourrait baisser. Les accidents de la route également diminuent. La crise sanitaire limite le trafic routier. Conséquence, des vies sauvées dans presque tous les pays selon le Forum international des transports.
7h08 sur France Inter. Et une question maintenant, le possible reconfinement va-t-il pousser à la fermeture l'entreprise Duralex?
Le fabricant, vous savez, de ces verres de cantine, au fond desquels on allait chercher notre âge. Duralex, en difficulté depuis des années, fragilisé un peu plus par la crise du coronavirus, placé en redressement judiciaire. Cela sera-t-il le choc de trop pour l'entreprise installée dans le Loiret, à la chapelle Saint-Mémin? Une audience se tient ce matin au tribunal d'Orléans. Maxime Deps a rencontré les salariés.
Devant l'usine, 22 ans de Duralex derrière lui, Grigory, fatigué.
C'est un petit peu un bateau fantôme. On a l'impression que ça fait quand même quelques années qu'il n'y a plus personne aux commandes.
Scrutant le fond de son verre, un Duralex comme lui, Pascal Colichet, tente un brin d'humour.
Ah, j'ai rajeuni, j'ai 26 ans, c'est bien, ça me plaît.
Mais très vite, le visage du délégué CGT de Duralex se referme à l'évocation des arguments de la direction pour qui la Covid a fait perdre 60% de chiffre d'affaires à l'entreprise du fait de la fermeture des frontières.
Ça a impacté, oui, sur la Chine, mais uniquement sur la Chine. Mais après, c'est le fait qu'il y ait du manque de personnel au niveau commercial.
Il manquerait donc des bras pour assurer la vente. Ça et un incident sur un four qui ralentit depuis de longs mois la production. L'usine ne demande pourtant qu'à repartir, mais avec un projet sérieux.
Pour que cette entreprise continue à produire sur la chapelle et que ça ne soit pas les dirigeants de l'entreprise qui s'accaparent les richesses créées par les salariés de Duralex.
Maire de la chapelle Saint-Ménin où travaillent les 248 Duralex, Valérie Barthechenot croise les doigts.
J'ose espérer que les repreneurs auront envie de continuer l'aventure. On a tous envie de faire perdurer, enfin voilà, il faut que Duralex vive.
Duralex et son verre trempé, bientôt centenaire, qui se verrait bien résister encore quelques années.
Conséquence directe du coronavirus, du télétravail notamment, le géant de la restauration collective Sodexo annonce lui 2000 suppressions d'emplois, explication dans le journal de 8h sur Inter. Au chapitre économique encore, faut-il craindre le blackout en France, risque pointé par une étude réalisée pour EDF et dont le Figaro a eu connaissance. D'après ce document, des coupures d'électricité pourraient se produire cet hiver, même en cas de météo relativement clémente.
7h10 et on part maintenant en Pologne où l'on manifeste depuis 5 jours maintenant, Marion.
Des femmes surtout très remontées après la quasi-interdiction de l'avortement dans le pays, mouvement dénoncé par le chef du parti ultra-conservateur Jaroslav Kaczynski. Ça n'empêche pas un appel à la grève aujourd'hui. La correspondante de RFI et France Inter, Sarah Bakaloglou, a rencontré les manifestantes.
Pancarte à la main, Justina manifeste depuis maintenant 5 jours à Varsovie. Pour la jeune femme rencontrée devant le Parlement polonais, la mobilisation actuelle est bien différente de celle de ces dernières années.
Les émotions ne sont pas les mêmes. Avant, les manifestations de femmes étaient très tristes et maintenant, c'est une grande explosion de colère. Ce qui s'est passé est la goutte de trop. Je pense qu'on ne va pas se satisfaire d'une réponse seulement sur l'avortement. Le problème est plus profond et la crise bien plus grande.
Car la question de l'avortement est devenue un symbole d'une colère plus générale dirigée contre le parti Droit et Justice au pouvoir depuis 2015 et ses atteintes à l'état de droit. Clémentina Souanov fait partie du mouvement La Grève des Femmes, leader de la contestation. Son organisation a évolué avec la mobilisation.
Nous sommes la grève des femmes, mais nous sommes aussi avec les manifestants dans les rues. Tout le monde veut le départ du gouvernement. Les gens nous font aujourd'hui tellement confiance que ça dépasse la question des droits des femmes. Ça inclut aussi d'autres secteurs de la société.
Une mobilisation qui va continuer dans les prochains jours. Outre la grève aujourd'hui, une grande manifestation est prévue dans la capitale ce vendredi. À Varsovie, Sarah Bakaloglou, RFI pour France Inter.
Et puis quand la diplomatie rencontre le sport alors que les manifestations anti-françaises se multiplient dans le monde musulman et dénoncent avec le président turc Emmanuel Macron et son soutien à la liberté d'expression, les footballeurs du PSG, eux, se déplacent sur la pelouse du Başakşehir à Istanbul en deuxième journée de Ligue des Champions et les Parisiens essayent de ne pas perdre de vue l'enjeu sportif à Istanbul, Cédric Guillot.
En arrivant à Istanbul, la délégation parisienne n'a pas changé ses habitudes. L'hôtel des joueurs est près du stade, le dispositif de sécurité autour de l'équipe n'a pas été modifié. Les joueurs d'ailleurs ne prêtent pas forcément attention au contexte diplomatique tendu entre la France et la Turquie. Presnel Kimpembe est l'un des défenseurs parisiens.
On est une équipe de foot. Tant que l'UEFA donne son accord pour venir jouer ici, on vient pour jouer notre match de football et rentrer à la maison. Ce qui se passe politiquement, ce n'est pas de notre ressort.
La tension est donc surtout sportive pour le Paris Saint-Germain. Car en perdant d'entrée contre Manchester United la semaine dernière, le PSG ne peut pas se permettre un nouveau mauvais résultat ce soir sur la pelouse du Başakşehir Istanbul. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel.
C'est absolument nécessaire de donner tous physiquement. Mentalement, nous sommes ici pour montrer qu'on veut absolument gagner.
En raison de la crise sanitaire, la rencontre se déroulera dans un quasi huis clos. Seuls 300 spectateurs seront autorisés à venir s'asseoir en tribune. Le climat sera donc moins hostile dans le stade et ça, c'est une bonne nouvelle pour le PSG dans cette atmosphère déjà très perturbée. Istanbul, Cédric Guillou, France Inter.
Coup d'envoi du match 18h55.
Merci Marion Lourd. Le zoom dans 3 minutes. Planter des arbres pour piéger le CO2.